Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 140. Mon nom est Paul Andreau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Leplante.
Et un petit heads up pour ceux qui suivent notre page Facebook. On a en ce moment un concours pour gagner des billets pour le nouveau film de Danny Moretti, Mia Madre, ma mère.
Ouais, pis c'est vraiment bien, c'est vraiment bon.
Donc, si vous voulez le voir avant tout le monde gratuitement grâce au film Séville, allez participer sur la page de Point de vue. Sinon, cette semaine, un grand s'est éteint. Et puis, c'est rare qu'on discute un peu de sportif au podcast, évidemment, parce que c'est un podcast de cinéma. Mais il y a de ces légendes comme ça qui sont tellement grandes qu'elles transcendent un peu leur domaine. Donc, Mohamed Ali, né Cassius Clay, nous a quittés. Et il a fait sa marque même au cinéma parce qu'il y a eu plein de documentaires à son sujet, il y a eu des films à son sujet.
Il y a son biopic, en fait, qui jouait dedans aussi.
Ouais,
là.
C'est ça,
j'ai jamais vu, là, mais il y a un biopic où son propre rôle. Là. C'est quand même particulier, là. C'est quand en cinéma que ça arrive, là, tu sais.
Ouais.
Souvent, la personne est déjà morte.
C'est que l'avantage de la carrière d'un sportif comme ça, c'est que finalement, tu prends ta retraite. Je veux dire, Mohamed Ali, il a pris quoi, sa retraite à quelque chose comme 36 ans, finalement, tu sais, de la boxe professionnelle. Donc, à 36 ans, en 1978, si je m'abuse, fait que tu sais, à 36 ans, tu peux un peu te jouer à 30, puis ça passe. Ben, moi, je vais en parler d'ailleurs. Mm-hmm. Là, c'est là que tu voulais amener la discussion, mm-hmm. Paul, parce qu'au fait, j'ai vu pour la première fois, je l'avais jamais vu, le Ali de Michael Mann. Ouais, ouais, c'est la première fois.
Moi, j'ai jamais vu non plus, fait que je suis comme curieux de savoir un peu ce que c'est. Là.
C'est ça.
Ouais, mais vous n'êtes pas plus fan de Michael Mann que ça, il me semble que.
Ben, non, mais.
Oui, mais Ali, c'est que je trouvais que ça tombait. Ben, il y a beaucoup de biopics très. Avant que Todd Haynes, peut-être, ben non, en même temps, Todd Haynes avait fait comme Karen Carpenter en Barbie, puis genre Velvet Goldmine avant, puis après ça, il a fait, tu sais, I'm Not... Mais je pense que c'est plus comme I'm Not There, puis il y a comme une vague de biopics beaucoup plus créative, qui expérimentait beaucoup plus sur la forme. Mais tu sais, début 2000, il y a vraiment une immense vague de biopics, tu sais, un peu chronologique, ou tu sais, où le plus osé qui faisait un peu au point de vue mise en scène, ou storytelling, c'était comme de faire des flashbacks de l'enfance, ou des affaires, ou tu sais, explorer des traumatismes passés, mais tu sais, il y a comme eu une genre de multitude de biopics un peu dans la même période, donc c'est peut-être ça qui a justifié à l'époque pourquoi le film avait passé entre les doigts. Ben, c'est 2001 aussi, je veux dire, c'est un film qui a quand même 15 ans, hein. Faut,
faut mettre les choses en perspective. Si tu as été admis, c'est pas comme garanti que le film va être. Je veux dire, je sais que le film a été très reconnu à l'époque, là, mais comme. En tant que non-sportif, là, en tant que nerd qui lit des safaris dans le cours d'école à l'époque, j'ai pas sauté dessus, là. C'est ça l'affaire.
Mais, non, mais justement, ce qui est intéressant, on parlait hors d'onde là, de bon un système de caméra obsolète, là, VHS pour toi, Rémi.
Ouais.
Mais tu sais, justement, Michael Mann, il est tellement intéressant pour ça, à s'intéresser à la texture de l'image, puis à la texture
très bien,
du son, puis qu'est-ce que c'est. Puis beaucoup, tu sais, évidemment, depuis plusieurs films, il explore le digital, puis déjà dans Ali... il y avait des plans vraiment intéressants. T'sais, ensuite, est-ce que c'est une totale réussite? Je ne sais pas, mais c'est le fun de voir un cinéaste dans le système des studios qui fait des films mainstream. T'sais, avec Will Smith en 2001, c'est comme à peu près la plus grosse star à cette époque-là. Et qui ose faire plein de shots en caméra mini-DV de nuit. Je sais pas si c'est mini-DV, là, mais t'sais, c'est quand même assez osé. Là.
Pas du Night Vision, mais il y a vraiment une exploration vidéo dans Ali. Tu sais, Michael Mann est très connu pour avoir fait Collateral, le premier film, je pense, hollywoodien tourné entièrement en numérique, là, sur un workflow numérique vraiment de A à Z en 2004, Collateral. C'est ça, Ali, il y a comme des expérimentations. Tu sais, c'est un peu comment. Ça devait faire à l'époque un peu la même chose que maintenant de voir des shots de GoPro un peu à travers des films. Tu sais, c'est comme le nouveau gadget, puis il l'intégrait. Maintenant, il l'intégrait quand même de façon intéressante, quoique je me questionnais parfois dans Ali. Mais on va y venir, là, je devance peut-être un peu la discussion en disant ça. Mais faut quand même le mettre en perspective, par contre, dans sa filmographie, hein. Ali. Parce que.
C'est particulier, ça ressemble pas vraiment à ces autres films de gangsters.
Ben,
pis de.
Ben, attends, pis c'est
un film qui sort un peu du lot, là.
Ben, c'est sûr, non seulement ça, mais les trois films qu'il a fait avant, donc, tu sais, il a fait en 92 Le Dernier Mohican.
Heat en 95, là, qui a pas besoin de présentation. Puis The Insider en 99, qui est un film dont on parle pas souvent, mais qui est un film thriller politico, tu sais, économique, avec Russell Crowe, là, avant ses pré-gladiateurs, là, tu sais. Russell Crowe, un peu dans sa période fin des années 90, dans LA Confidential et tout, là, tu sais, il commençait à devenir vraiment proéminent sur la scène, mais The Insider, c'était un des rôles extrêmement marquants de sa carrière, justement, pré-gladiateur. Puis, moi, c'est peut-être, j'oserais dire, ben, Heat est peut-être le plus, celui qui détonne le plus. C'est la grosse pièce maîtresse, c'est le bloc de 3 heures, c'est l'argument massue pour montrer un peu les aptitudes de mise en scène de Michael Mann. Mais The Insider, à plusieurs points de vue, c'est quasiment un film peut-être même encore supérieur. Donc, tout ça pour dire que Ali arrive à un moment où Michael Mann est vraiment au pic de sa carrière, tu sais. Il sort de des gros films, des films qui ont su plaire autant au grand public, tu sais, qu'à une certaine critique.
Donc, et pourtant, il sera jamais vraiment connu du très grand public, je pense, ouais. Michael Mann. T'sais, il a peut-être pas la personnalité d'un, tu sais, un Steven Spielberg ou un Tarantino. Si on connaît le personnage public, je pense pas que les gens connaissent vraiment Michael Mann. Puis c'est pas non plus négatif nécessairement.
Ben, les gens connaissent les films, mais pas le nom, là. Parle de Michael Mann à mon père, puis s'ils connaissent ses films, c'est sûr. Comme c'est des films qui ont vraiment marqué, puis qui ont passé, repassé. Puis même, tu sais, Miami Vice, pas très bon, mais il a quand même fait sa marque, puis les gens l'ont vu, là. Les gens étaient au rendez-vous pour voir ce film-là. Moi, j'aime beaucoup Manhunter, en fait, qui est souvent oublié, là, dans la lignée Silence of the Lambs et compagnie, la lignée Hannibal. Mais Manhunter, là, c'est glauque, là. C'est quasiment plus peut-être pas plus trash, là, mais c'est moins léché comme ambiance qu'un Silence of the Lambs. C'est trash, là. C'est un film, comment on dit en anglais, c'est comme gloomy, là. C'est weird, là.
Mais c'est ça, je l'ai pas vu, mais tu sais, vraiment, je veux dire, ces trois longs métrages des années 90, donc je les répète, Last of the Mohicans, Heat, puis Insider. Tu sais, on peut parler d'une décennie, tu sais, pour n'importe quel cinéaste américain, je veux dire, c'est quand même une décennie assez sans faute, là. Donc, Ali arrive là. À un moment, je sais pas si en 2001, par contre, c'était quoi le timing avec la vie de Mohamed Ali. Encore une fois, mon mea culpa vient du fait que Mohamed Ali, je connais les grandes lignes, mais évidemment, c'est la carrière de boxeur qui... ben, qu'on connaît plus, là, et je crois à raison. Cela dit, c'est certain qu'il est, tu sais, grande gueule comme il était, puis tu sais, autant à la défense des droits civiques, le droit des Noirs, tu sais, à plusieurs niveaux, tu sais, son affiliation religieuse, il y avait beaucoup de points sur lesquels il pouvait être très à l'avant-plan d'un point de vue médiatique, mais je t'avoue qu'en 2001, j'ai pas vraiment mis en contexte du point de vue de la vie de Mohamed Ali à cette époque-là. Je sais qu'il souffrait du Parkinson à ce moment-là, puis tu sais, c'est assez documenté. Mais autrement, le film, Ali, donc si je plonge dedans carrément, donc Michael Mann, 2001, on prend Mohamed Ali, en fait, sur le premier combat qu'il a mené comme champion du monde poids lourd à l'âge de 22 ans. Donc ça, c'est vraiment... Le film ouvre pratiquement sur ça. Donc, le titre, la couronne, et le film a une immense aparté sur tout le moment dans la carrière de Mohamed Ali où il a été banni, en fait, de la Boxing Association. Là, je sais pas c'est quoi la vraie association, mais bon. Parce qu'il avait refusé de prendre part à la guerre du Vietnam. Et donc, ça a fait en sorte que, tu sais, pour un sportif de très haut niveau, de perdre comme ça 4 années, tu sais, au sommet à sa prime, là, si je peux me permettre, tu sais, c'est très, très, très dommageable. Donc, quand on parle de Mohamed Ali comme un des plus grands boxeurs, c'est en plus en incluant un genre de 4 ans où il aurait pratiquement gagné tous ses matchs. C'est vraiment une légende. Le film le rend bien. Tu dis Will Smith, c'était peut-être une des plus grosses vedettes à cette époque-là, mais Will Smith, si je ne m'abuse, en 2001, n'avait pas encore gagné de crédibilité d'acteur. Tu sais, je pense que Will Smith, c'était la figure populaire qui débarque, qui fait le rôle de Mohamed Ali, puis qui avait... Tout le monde attendait, les critiques attendaient qu'il se pète la gueule quand même. Je veux dire, c'était pas encore le comédien à... Bon, est-ce que j'adore Will Smith? Je peux pas dire que j'adore Will Smith, mais...
Moi, je veux juste dire, là...
Quoi?
Je respecte beaucoup Will Smith, parce que Will Smith, c'est le gars qui a... Mais c'est le gars qui a arrêté de dire « C'est un bon acteur noir », tu sais. Je veux dire, c'est... Il y avait comme tout ça que les A-listes pouvaient pas être noirs, tu sais, à cette époque-là, là. Genre, c'est... Je sais pas ce que je veux dire, là, mais les A-list, ça a été beaucoup discuté, là, ça, mais que justement, Will Smith, il est devenu juste comme un A-list tout court, sans que ça soit le A-list black, tu sais.
Ouais.
Puis ça, je respecte beaucoup ça, puis c'est vraiment cool, mais en même temps, Will Smith, autant que j'ai ce respect-là, autant que j'aime pas ses films, il y a comme aucun film, en fait, c'est que je trouve jamais qu'il rehausse le personnage, il donne jamais rien de plus que... C'est que tout le monde aurait pu faire ce qu'il a fait, puis je trouve que c'est vraiment le problème avec son jeu, parce que de base, en fait, c'est le Fresh Prince of Bel-Air, tu sais, j'ai jamais regardé cette série-là, mais les seuls rôles où il est quand même bon, c'est quand il reprend un peu ce personnage-là, c'est-à-dire Men in Black, où il joue un peu, tu sais, cabochon, puis ça va, tu sais, ça passe, mais sinon, je trouve pas que Will Smith a des bons films dans sa filmographie. J'essaie d'y penser, le vite de même, là, ça se peut que vous me portiez en erreur, là, mais...
Ben, faudrait peut-être écouter Ali de McElmay.
Ben, c'est ça que j'allais dire, en fait.
Ben, c'est ça ma question. Comparativement au reste de sa filmographie, est-ce que c'est good, ça? Est-ce que ça va? Sa performance, puis...
Ben, t'as peu. Toi, Paul, tu l'as vu, donc, le Ali de Michael Mann.
Ouais, j'ai vu, ça fait quand même plusieurs années. Je l'ai pas revisité dernièrement. Mm-hmm. Puis je sais aussi que j'avais vu la version Director Scott, parce que Michael Mann aime beaucoup faire plusieurs... Il aime beaucoup faire un montage personnel. Mm-hmm. Un peu à la Ridley Scott, là, comme chacun de ses films, il y a comme un Director Scott. Donc, à mon souvenir, ça changeait pas grand-chose, mais ça ajoutait à peu près 20 minutes de film, puis de scènes pour développer encore plus le personnage, plus des scènes intimes. Mais je me rappelle aussi que ce qui m'a marqué à l'époque, c'était au-delà de la performance de Will Smith, c'était vraiment en plus la mise en scène, parce que le film de boxe, c'est tellement un carcan idéal pour les cinéastes qui ont le goût de se, tu sais, ils ont le goût d'un défi là, puis de se mesurer un peu. On dirait que le film de boxe, parce que c'est simple, t'as une arène définie, tu sais, t'as même les rounds, ça dure 3 minutes, tu sais, il y a le tempo et la durée qui est là. Donc, c'est comme un défi de mise en scène pour pas que ça ressemble à n'importe quel autre film de boxe.
Exactement. Faut pas que ça soit Rocky encore, tu sais.
Ouais.
Rocky établit genre la base, le ground, le standard, puis après ça, c'est comme go crazy, là. Fais pas Rocky, là.
Ben, t'as Rocky, t'as Kubrick qui a son Day of the Fight, t'as Scorsese qui a son Raging Bull.
Ben, c'est ça, que j'allais dire, ouais. Le genre de film de boxe, ce sous-genre-là, a été quand même attaqué par des cinéastes extrêmement affichés. C'est difficile de faire un film de boxe sans...
Nacho Libre avec Jack Black, mais c'est pas de la boxe, là, c'est du luchador, là, mais... Anyone,
viewer. mais c'est vrai. Je pense que en fait Ali apporte à cette discussion là de ce sous-genre de film de boxe là, il se contente pas d'émuler un peu ce que d'autres grands réalisateurs ont fait. Puis récemment, j'avais eu un peu réflexion là sur le Creed de Ryan Coogler là, il y a comme un match il y a un des combats de boxe en fait qui le gagne au premier round ou au deuxième peut-être, mais qui est tout en plan séquence, puis c'est vraiment vraiment bien fait, puis avec un travail sonore aussi qui détonnait, je trouvais. En tout cas, je trouvais que Creed y amenait comme de la mise en scène intéressante, mais autrement, c'est ça, tu te dis comme beaucoup de grands se sont mis la main à la pâte, puis tu sais, en plus, c'est qu'un film de boxe, il va avoir plusieurs, généralement il y a plusieurs match de boxe dans le film. Le ring devient un élément pour faire avancer l'histoire, ou si ça devient carrément une pièce de storytelling, là, une pièce narrative. Donc, tu sais, c'est que Scorsese a un peu tout fait dans Raging Bull, du ralenti avec la musique classique jusqu'aux scènes, les plus brutales, là, sorties quasiment d'un film gore. Quand tout y est passé dans un film, tu te dis « ouf ». La barre est haute. C'est juste ça que je veux dire. Bref, c'est comme faire un film de gangster aujourd'hui. Je veux dire, avec le nombre de grands films de gangster, la barre est haute, ben c'est ça. T'sais. Mais c'est bien, c'est un beau défi. Qu'est-ce que Michael Mann amène de nouveau au genre? Attends, est-ce que je rentre là-dessus ou est-ce que je fais quand même un petit synopsis rapide? On va faire un synopsis rapide.
Le synopsis, je pense que les gens le savent. Là, mais...
comme je disais, là, c'est un peu la vie de Mohamed Ali, mais vraiment de champion à champion. Donc, de son premier titre de champion du monde poids lourd jusqu'à un des matchs de boxe les plus iconiques de sa carrière, là, le Rumble in the Jungle en 1974, où il a regagné son titre de champion du monde poids lourd. J'ai lu par la suite qu'il l'a regagné apparemment en 78, donc 4 ans plus tard, encore une fois, puis c'est juste pour dire, perdre et regagner son titre de champion du monde en boxe à ce niveau-là, c'est déjà un exploit en soi, puis Ali l'a fait comme 4 fois. C'est que effectivement, c'est assez impressionnant. Ce qui fonctionne bien, bon, c'est ça, disons qu'on prononce ça comme synopsis, là, comme carcan. c'est un film soul. C'est vraiment ce qui fonctionne dans le film, c'est tout le travail de musique. Il y a un apport. Je pense dès le début du film, il y a un montage, un parallèle entre. Je pense que c'est un acteur qui incarne Sam Cooke, là, lui qui a chanté Change Is Gonna Come. Il y a comme Sam Cooke qui est là, puis qui croon dans un bar pendant que t'as, tu sais, Ali qui s'entraîne, puis pendant que t'as Malcolm X qui preach. Tu sais, le film te rend une époque très bouillante. C'est une époque extrêmement bouillante, justement, pour les droits des Noirs. Il arrive un peu dans ce genre de gros tumulte-là. Il était d'ailleurs, ça je l'ai appris par le film, parce que veux, veux pas, quand t'écoutes un biopic, même le plus américain des biopics, généralement, t'apprends quand même quelques trucs. Puis c'est ça, je savais pas qu'il y avait autant d'affinité avec Malcolm X, par exemple. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Le film est très, très intéressant dans tout, comme je disais, l'aparté un peu politico-social. Tout sa revendication pour ne pas aller au Vietnam, ses litiges judiciaires. Ça, c'est vraiment intéressant, au fait. Ça devient un film de combattant, mais dans le ring autant que derrière le ring. Ça, ça marche bien. Par contre, la dernière demi-heure fonctionne pas du tout. Une fois que, justement, bon, spoiler, là, ben, c'en est pas un parce que c'est la vie de Mohamed Ali, mais il est acquitté pendant 4 ans, justement. Il y a des démarches judiciaires. Il peut pas boxer. Il s'entraîne, évidemment, mais il peut pas boxer professionnellement. Il est un peu mis sur la tablette, mais il finit par gagner en appel. Puis ça, c'est à peu près à comme 40, je pense, 40 minutes de la fin du film. Puis il y a comme tout un genre de dernier chapitre, puis c'est un peu une redite. C'est un peu le encore d'un spectacle que c'était correct, là. C'était bon, ça allait, c'était le fun, mais c'était un bon show. Ouais.
Les derniers 30 minutes de Django Unchained.
Non, mais bonne comparaison. C'est comme. Il me semble que ça finissait là. Parce que après.
Il y a Michael Mann qui fait un caméo, genre avec un accent texan vraiment raté. Non, Australien, super raté.
Mais ça m'a vraiment. Puis le film finit, c'est vraiment foutraque, ça va tout partout. Puis c'est. Puis le gros problème aussi, c'est que la vie est beaucoup plus chaotique qu'un beau film bien organisé. Puis ça s'est particulièrement fait sentir dans la vie amoureuse de Ali. Il s'est marié 4 fois, donc il y a comme des femmes qui gravitent autour de lui, qu'il rencontre, il les épouse, il les divorce. Et ces femmes-là n'ajoutent vraiment rien au récit. Peut-être c'est là où un director's cut pouvait aider, j'ai l'impression, parce que c'est un point où ces scènes-là sont escamotées au niveau, tu te dis, il aurait quasiment dû couper. T'sais, mettons sa première femme qui rencontre comme dans un bar, il la marie. 10 minutes plus tard dans le film, il la divorce, puis c'est censé être comme une scène émotive, mais on la connaît pas, on connaît, tu sais, ils ont jamais exploité, il y a comme une scène de baisse vraiment cheesy, là, avec de la musique, tu sais.
Ça te lance un truc de studio, genre, on a besoin de romance pour attirer les madames, là.
Mais c'est un peu comme, tu sais, dans Lord of the Ring, là, les deux tours, là, tu sais, la romance à Aragorn, Arwen, là. C'est comme.
Non, je pensais aller dire la romance entre Frodo et Sam.
Ou Eowyn, là. Vous rappelez, là, dans les deux tours. C'est dans les deux tours qu'il y a comme Eowyn, là. Puis là, il essaie de faire un genre de triangle amoureux. Mais.
Star Wars épisode 2.
Non, mais Star Wars épisode 2, c'est que ça fait partie de la trame principale, aussi mauvaise la romance. C'est comme, le film fonctionne pas sans la romance. Mais ça, c'est vraiment des parenthèses, tu sais. Mettons, ceux dans Lord of the Rings sont des meilleures comparaisons. Bon. Ben, les romances dans Ali, c'est parce qu'il y en a comme plusieurs, puis c'est plusieurs parenthèses, puis donc, c'est vraiment une croisée des chemins. Soit c'est plus étoffé, moi je vote pour ça, là, t'sais, soit ces scènes-là, ces personnages-là, étoffez-les, ou carrément, faut en couper un, mais là, on commence à prendre des libertés, t'sais, donc là, pourquoi qu'on met une ex-femme plus qu'une autre, là, ça pourrait devenir un débat sans fin. Bref, j'ai comme eu cette grosse réflexion-là, parce que ça fonctionne pas. Mais ce qui fonctionne, il y a vraiment une soul, tu sais, dans le film. Et bordel, Will Smith fonctionne bien. Puis c'est
vraiment donné pour ce film-là, d'ailleurs.
Ouais. Ben, il est crédible.
Il a pris beaucoup de masse musculaire.
Exact. Physiquement, les chorégraphies.
Il a-tu gagné l'Oscar cette année-là?
Hey, bonne question. Je pense pas. Non?
2001, c'est pas Russell Crowe pour Beautiful Mind?
Ah oui, probablement. Ouais, probablement en 2001, ouais. Mais tu sais, c'est une performance qui se tient debout, sans faire de jeu de mots de boxe. Là. Fait que. Que dire de plus, sinon que pour moi, c'est un. Ça m'a quand même partagé. Là. C'est pas non plus un film incontournable, mais compte tenu de du contexte actuel, je pense que ça valait la visite. Donc voilà pour le Ali de Michael Mann.
Je confirme qu'il n'a pas gagné.
Bon, merci Rémi.
Il a été nominé deux fois. Il a été nominé aussi pour The Pursuit of Happiness.
Ah oui, c'est vrai.
Mais c'est pas pour After Earth.
Pas pour Concussion, puis ça avait causé une commotion d'ailleurs. Oh, oh, oh.
Mais il y a plein de prix, par exemple, pour MTV pour sa tune de Wild Wild West.
Là. Ah, ça c'est correct. Bon. Ouais, c'est quand même la meilleure
chose.
Parce que la meilleure chose qu'il a faite, c'est d'amener le monde à Miami. Là. Fait que, donc, sur ce. C'est quoi qui reste au goût du jour, à l'horaire, mon Paul?
Ben écoute, parlant de phénomène du début des années 2000...
Oh! Ouais, c'est moi, ça, va!
En fait, c'est que... c'est drôle, hein, mais j'ai comme un nouvel emploi du temps. J'ai un nouvel emploi temps plein de jours. Puis ça a vraiment tout changé ma philosophie puis ma conception du monde.
Mon
Dieu! Non, mais pour de vrai. Puis mes habitudes de cinéphile sont vraiment après se transformer. Parce que, tu sais, écouter un film... contrairement à un livre... ou une bande dessinée, ou un jeu vidéo, ou plein d'autres choses, j'ai vraiment, vraiment la difficulté à écouter un film par bout, tu sais, comme écouter une petite 30 minutes là, une heure là, le finir une autre soirée. Je trouve que ça serait comme écouter une pièce de théâtre en plusieurs fois. Tu sais, pour moi, c'est vraiment c'est des formes d'art qui doivent s'apprécier en une seule fois.
Au contraire, ça dépend, hein.
Ça dépend, mais moi, j'ai l'impression que le cinéma, c'est comme ça. Puis c'est peut-être aussi d'où vient peut-être ma révérence, justement, pour le cinéma. T'sais, le fait que cette espèce de cet art qui contrôle, puis cet art auquel tu dois te faire face dans toute sa totalité. Alors que, puis pourtant, j'aime beaucoup, beaucoup lire, mais t'sais, jamais je lirais un roman de 300 pages dans une journée. C'est, pour moi, le livre, c'est, ça se transporte, ça se lit à gauche puis à droite, tout ça. Ça s'annote, etc.
Moi, j'ai comme mes deux catégories sur Netflix. Là. J'ai genre mes films poche puis les docs que j'écoute avant de me coucher une petite demi-heure, mais c'est sûr que tu sais, tu regardes pas genre Ali en deux shots. Je sais pas.
Non.
Tu me fais ça parce que. Non, mais comme ça. Des films, je pense que tu peux transgresser cette règle-là, mais je comprends,
ouais. Et du coup, ben, je commence à écouter de plus en plus en fait des séries télé. Parce que ça se plug bien, tu sais, un petit épisode de 30 minutes ou de 45 minutes avant de faire à manger le soir ou peu importe. Donc j'ai écouté dans les dernières semaines avec ma copine Firefly de Joss Whedon.
Eh, c'est bon.
Pourquoi tu dis ça?
Mais non, mais c'est cool.
C'est un phénomène cool quand même, Firefly. Ouais.
Joss Whedon, c'est ça qui avait déjà derrière lui, tu sais...
Buffy
contre les vampires, qui plus tard fera de certains films que vous avez peut-être entendu parler, Avengers 1 et 2.
Ou le film de Shakespeare, là, celui-là aussi, vous en avez entendu parler.
Ouais, Much Ado About Nothing, film en noir et blanc avec Nathan Fillion.
En langage shakespearien, il n'est pas en anglais genre moderne.
Non, c'est ça.
c'est difficile.
Et son Serenity aussi, quand même. Mm-hmm.
Ouais, qui est la suite de
la suite de la suite de Firefly. En fait, c'est parce que... moi, juste pour dire, j'ai jamais écouté Firefly, mais j'ai vu Serenity sans aucun contexte, en fait.
Hey my God.
En 2005, ouais. C'est au cinéma, puis j'avais...
Tu cherches un peu le trouble, tu sais.
Ouais, j'avais cherché un peu le trouble. J'avais pas aimé ça, mais tu sais, mon opinion vaut rien. Fait que je sais pas, bref. Peut-être que c'est bien dans un contexte de Firefly.
Ouais,
mais
c'est fait pour rappeler la série,
ben,
dans
c'est
le
ça,
fond.
C'est
un peu la fin. Il y a plein de séries même qui ont été annulées. Tu sais, les Freaks and Geeks aussi, c'est genre une des meilleures séries ever. Mais qui a été annulé parce qu'à l'époque ça avait pas marché, puis t'as une fin en queue de poisson, puis c'est frustrant là. C'est une incroyable série, mais t'arrives à la série de Judd Apatow là, t'arrives à l'épisode, je pense qu'il y a aussi un peu comme Firefly, il y a autour de 14-15 épisodes.
Mm-hmm. 18, paf, je pense, ou 19.
Ah oui, peut-être 18, ouais, Freaks and Geeks, mais tu sais, paf, après le dernier, ouais. Mais ils ont fait un petit wrap-up là, mais genre j'aurais aimé se l'avoir, le Serenity de Freaks and Geeks. C'est quand même un bon move pour les fans.
Ouais, et d'ailleurs, c'est ça, pour remettre en contexte, c'est que Serenity, ça sort en 2005, deux ans, c'est-à-dire après la conclusion de la série avortée, qu'il a même pas eu sa première saison complète. Et c'est vraiment, vraiment à cause que les fans ont poussé, ont acheté beaucoup les coffrets, DVD, tout ça. Ils ont envoyé des lettres de support, un peu le même phénomène que de Family Guy ou Futurama. Des séries d'animation qui ont été ressuscitées un peu grâce à l'engouement des fans. Ce qui est possible maintenant, justement, avec l'avènement du DVD, qu'il sera peut-être de moins en moins maintenant, puisque le DVD, ça se vend plus vraiment, les Blu-ray, ça n'a pas vraiment pris la relève. Mais c'est ça, début des années 2000, on avait encore le pouvoir, nous, les consommateurs, de ressusciter des séries comme ça. Mais Firefly, ça a eu le droit à un film, mais pas plus. Et c'était vraiment une espèce de projet de science-fiction intéressant, un peu à la Star Trek ou à la Battlestar Galactica, mais qui avait vraiment du potentiel et vraiment une forte personnalité. Puis c'est ça vraiment qui fait que la série se démarque et vaut le coup, selon moi, même si on a une histoire qui est avortée. Donc, c'est ça. Firefly, c'est quoi? C'est un peu à l'image d'un Star Wars A New Hope, là, le premier. Ce qui fait que c'est bien Firefly, la prémisse de base, c'est que c'est dans un futur, bon, un peu, tu sais, la Terre est surpeuplée, puis on a tout un peu, on a écoulé les ressources naturelles et on doit aller sur d'autres planètes. Et il y a plein de technologies qui existent, là, super futuristes. Il y a des vaisseaux qui vont un peu partout, il y a des colonies sur plein de planètes. Mais la grande, grande majorité des gens n'ont pas l'argent pour utiliser ces technologies-là. Donc, tu te retrouves avec des planètes et des endroits que c'est carrément, là, ils vivent dans le Far West. Là. Puis, c'est comme ils font l'agriculture, ils ont peut-être des guns laser, mais ils n'ont pas grand-chose d'autre. Ils volent des banques, ils ont des putes. Puis, c'est vraiment comme... Puis c'est, dans un sens, c'est plus crédible, parce que des fois, dans les séries science-fiction, tu as une technologie, puis là, tout le monde a la dernière technologie qui existe, super incroyable, avec des vaisseaux, des chars qui volent. Ça, c'est l'exemple typique. Mais, tu sais, nous, mettons, de nos jours, on aurait la technologie pour faire un char volant, mais c'est juste pas rentable, tu sais, ça sert à rien. Donc, c'est ça que Firefly fait de bien, selon moi, c'est d'amener un espèce de côté, tu sais, un gros sens logique à une prémisse, tu sais, de science-fiction plus ou moins farfelue. Et aussi, ce qui fait très bien Joss Whedon, c'est assembler un casting vraiment intéressant qui vont vraiment développer une chimie rapidement. J'avoue que ça m'a pris quelques épisodes avant d'embarquer pleinement, mais rapidement, on se met à vraiment aimer la troupe. Un peu comme... j'aime beaucoup, beaucoup le casting des nouveaux Star Trek que J.J. Abrams a assemblé. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Quand tu te plais à côtoyer l'équipe dans un sens du vaisseau...
Ouais, la moitié de la job est un peu faite, là.
C'est ça, c'est
ça. T'es su un peu partout, là. Ouais, ouais, ouais.
Ouais. Et puis, Joss Whedon, en très grand cinéphile et nerd qu'il est, s'amuse, en fait, à ce que chaque épisode... Il y a vraiment une histoire globale et il y a des espèces de mini-scénarios à certains personnages puis des mystères qui vont d'épisode en épisode. Il y a notamment... le personnage interprété par Summer Glau, la sœur du docteur de l'équipage, qui a comme un peu des pouvoirs télépathiques, on sait pas trop pourquoi. Puis elle fait souvent une espèce de rêve qu'il y a des agents avec des mains bleues qui veulent la poursuivre. Puis ça, c'est une espèce de scénario, ben de pas un scénario, mais un parcours narratif qui va vraiment être en parallèle de toute la série au complet. Et qui ne sera pas résolu parce que la série a été avortée. Ce qui est vraiment chiant parce que c'était comme vraiment, c'est vraiment un bon mystère. Un peu à la David Lynch, d'ailleurs. Ces épisodes-là, qui sont plus sur la sœur, il y a un côté très lynchien qui est le fun, qui rappelle Twin Peaks également, une autre série culte avortée. Et c'est ça, mais malgré tout, la plupart des épisodes, ils ont aussi une espèce d'histoire qui se résout à la fin de l'épisode. Et chaque ou presque chaque épisode, ça se veut comme une espèce de genre contenu. Donc, tu vas avoir l'épisode un peu à la Seven Samurai, où ils vont aller genre secourir un petit village, plus particulièrement une maison de prostituées, qui sont tannées de se faire un peu mener par l'espèce de shérif corrompu et pervers du coin. Donc, ils vont défendre le fort, et c'est vraiment comme une espèce de western, tu sais, old school. T'as l'espèce d'épisode qui fait très Alien, où t'as un envahisseur qui va arriver sur le vaisseau, puis qui va enfermer tout l'équipage dans leur sommeil, dans leur cabine, et qui, un à un, va essayer de comme justement, les mettre hors de nuire, puis de prendre le contrôle du vaisseau. Tu vas avoir l'épisode un peu quasiment Barry Lyndon, où ils vont aller se déguiser pour infiltrer un espèce de bal costumé de bourgeoisie d'une colonie ultra moderne. Donc, au final, c'est vraiment ça aussi qui est le fun, c'est que t'as l'histoire globale, mais vraiment, chaque épisode a son style distinct. Fait que ça, c'est vraiment plaisant. Puis, peut-être aussi que c'est bien que la série soit avortée, parce que tu dis, sur plusieurs saisons, peut-être qu'il aurait éventuellement manqué de jus puis d'imagination.
Ouais. Ça aurait pu devenir un fourre-tout un peu là, trop. Là,
c'est ouais. Ça. Donc, des fois, puis là, tu sais, ça finissait, puis j'étais un peu triste qu'il y ait plein de trucs qui ne soient pas résolus, mais en même temps, tu sais, de nos jours, avec Netflix puis Amazon qui prend de plus en plus de place dans le paysage de la télé, tu sais, puis qui se mettent à ressusciter un peu tout puis n'importe quoi qui a une valeur, tu sais, n'importe quelle franchise qui est encore connue, là, qui est encore comme... qu'on peut la vendre, ben c'est en train de revenir. Puis, il y a un danger à ça, c'est finalement, tu ramènes une saison pour rien un peu, puis tu dis, ah ouais, tout ça pour ça. Comme là, tu sais, il y a Twin Peaks qui s'en vient en 2017 avec David Lynch à la barre, puis, tu sais, je suis content que David Lynch a les rênes de tourner puis puisse comme faire quelque chose, mais il y a une partie de moi qui me dit, peut-être que c'est ben, comme, ouais. C'était bon à l'époque, mais je sais pas si je veux vraiment
la suite. En même temps, Lynch est là, tu sais.
Ben oui, je sais, mais tu sais...
Si il restait la série avec quelqu'un d'autre derrière, of course, tu te poses des questions. Mais quand t'as le créateur original qui le fait puis qui a le goût de le faire, tu sais, Lynch prendrait pas un projet de même s'il y avait pas le goût, là. Non, ben, il a dit, j'arrête de faire des films, puis il a arrêté de faire des films, là.
Ouais,
il
mais
pas fait depuis, tu sais.
Mais tu sais, mettons, Steven Spielberg a fait un nouveau Indiana Jones, puis Ridley Scott a fait un nouveau Alien, puis tu sais, des fois, c'est bien de laisser une série où elle est, tu sais, même si elle est pas finie. Donc... Ouais.
Moi, je l'aime, Indiana Jones 4.
Hein?
Malaise, non? J'ai dit, moi, je l'aime, Indiana Jones 4. Puis là, il y a un malaise qui s'installe.
Ben écoute, personne n'est parfait. Mais... donc, en tout cas, Firefly... Bon, ensuite, là, j'ai dit beaucoup d'éloges. Le gros problème, quand même, ça reste une question de format, selon moi. Parce que, tu sais, une série aussi ambitieuse, il n'y a pas nécessairement le budget puis le temps de faire des bons effets spéciaux. Parce qu'on parle quand même d'une série en 2002. Tu sais, 2002, là, il y avait déjà des films comme les nouveaux Star Wars
qui sortaient. Ouais, c'est ça, c'est ça.
2002, c'est Spider-Man. Tu sais, il y avait...
C'était pas les budgets télé de Game of Thrones. Il n'y a pas eu le renouveau de la télé avec HBO puis la grosse patente qui s'en mêle puis ils commencent à faire des séries méga, méga coûteuses. Hein. Ouais. Tu sais, s'il y avait eu les budgets de Game of Thrones sur un Firefly, ça aurait été autre chose. Là.
C'est ça.
Mais là,
est-ce que ça donne un petit côté camp qui peut être le fun? Parce que tu sais, le ton de la série...
Oui, oui. Mais moi, en fait, je veux juste te dire, j'ai vu 4 épisodes. Là. Je me suis pas rendu au bout. Puis c'est même pas parce que ça m'intéressait pas. C'est juste que à Mani, il y a tellement de contenu à regarder dans le monde. J'ai commencé à regarder une autre série avec ma copine, puis là, j'ai laissé celle-là. Puis, à un moment donné, je vais sûrement y retourner puis finir la série, mais j'avais vraiment apprécié. Mais c'est ça, je trouvais qu'il manquait un peu le côté cliffhanger pour me ramener au prochain épisode. Là. Surtout que les 4 premiers, tu me dis que ça t'a pris un... C'est souvent ça, les séries, ça te prend souvent quelques épisodes avant d'embarquer, puis
c'est ça qui est arrivé. Puis les premiers épisodes, particulièrement de cette série-là, c'est qu'ils assemblent un peu leur crew. Tu sais, comme, je pense que c'est l'épisode 2 où t'as comme le prêtre noir qui va embarquer sur le vaisseau. Puis finalement,
l'épisode 4, j'étais pas de temps hook. Tu sais, c'était trouvais ça le fun. Mais, ouais, pis, mais oui, il y avait le côté camp à la Star Trek un peu.
Mm-hmm.
Puis moi, j'haïssais pas ça, en fait, niveau effets spéciaux. Je trouvais que c'était. Il essaye pas de faire plus que ce qu'ils sont capables de faire.
C'est ça,
ça fait partie du deal, tu sais, je veux dire.
Mais le budget aussi, c'est pas juste une question d'effets spéciaux, c'est aussi une question, tu sais, des fois, mettons, t'as une foule, la foule est pas très grande, tu sais, puis tu te dis, mettons, dans un Blade Runner, t'aurais comme, tu sais, parce qu'il y a des épisodes un peu à la Blade Runner, si on veut, là. Tu sais, c'est comme, ça paraît qu'il n'y a pas beaucoup de costumes, puis il n'y a pas beaucoup de figurants, puis les décors sont minimalistes. Mais bon, tu sais, on comprend que c'est un produit de son époque également aussi. Ce qui est très le fun, c'est aussi c'est tout le blend, justement, entre le western et la science-fiction. Ça fait que l'utilisation du son puis la musique est vraiment intéressante. Tu sais, le thème, c'est une espèce de petit thème country, le fun. Puis, tu sais, au lieu d'avoir des... Justement, à chaque fois qu'il y a des espèces de plans dans l'espace, au lieu d'avoir des espèces de bruits de vaisseaux, puis des espèces de bruits de science-fiction. C'est vraiment juste comme un bout de guitare, puis ça se fait dans le silence, les plans extérieurs de vaisseau. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça change un peu du mode, justement, le mode qui est comme un peu instauré Star Wars. Là. Donc, Firefly, ben bon, évidemment, je suis un peu en retard, mais pour ceux qui n'auraient toujours pas fait le saut, je le conseille, c'est disponible sur Netflix. Et puis, faut malgré tout comme savoir qu'il n'y avait pas de conclusion... vraiment, même s'il y a le film qui existe, mais c'est pas comme justement un Battlestar Galactica ou un Star Trek qui ont pu avoir vraiment des longues séries. Donc mais, ça, c'est un peu dommage.
As-tu vu le film, toi, Paul?
Toujours pas vu le film, ça, je me le garde.
Je suis comme curieux de savoir un peu ce que t'en penses comme un le gars qui a regardé le reste de la série.
Ouais, moi, j'ai aucune opinion, man. Je l'ai vu, j'ai fait « what is this? » Mais Paul,
oui.
Tu sais, là, point de vue, là, c'est le podcast 80% cinéma ou 78%.
On vient de parler de sport et de télé, là. Hey, mais là, t'écoutes tes séries, Paul. Moi, je vais te challenger live, là.
Ah, comment, les gars,
tu regardes Série Noire, là.
Ah, oui.
Série Noire, ouf. Ouais, OK.
Ouf? Pourquoi ouf?
Ben, je sais pas. Je sais pas. J'ai comme un...
Hey,
dresse.
My God!
Ouais.
Ouais.
C'est genre, pour vrai, c'est comme... C'est une des top 10 à vie. Genre, mais comme... Pas genre du Québec, le top 10, 10, là. Genre, c'est pas comme... C'est bon pour une série québécoise. Ça, l'affaire, c'est que c'est fucking bon, là.
Oh!
Bon, ben, je vais mettre ça sur ma to-do list, Rémi. Mais
pourquoi, pourquoi t'hésites? Pourquoi t'es aussi hésitant?
Je sais pas, j'ai souvent... je crains ce qui est comme trop populaire, en fait.
Mais Série Noire, c'est justement... C'était pas populaire avec la... c'était populaire, en fait, avec notre génération puis notre gang autour de nous. Genre, c'était pas... ma mère, elle a pas écouté Série Noire puis elle a pas trippé sur Série Noire, là, tu sais.
Non, mais... Mais c'est ça, justement. Quand ça jouait, mon fil Facebook, c'était que des répliques puis des insides de Série Noire que je comprenais pas.
C'est ça, parce que c'est bon.
J'ai fait comme une overdose sans même écouter un seul épisode.
Tu boutes parce que c'est un party que t'as pas été invité, genre, ou que t'es pas allé.
Oui, c'est vraiment ça, là. C'est un truc de scénariste, en plus, tu vas vraiment triper, man. Bon. Je te dis, essaie de regarder ça maintenant que tu checkes des séries. Là.
Fait
que
le pourcentage descend, podcast 75% cinéma à Montréal.
Non, mais notre podcast, de toute façon, c'est beaucoup mais basé sur notre amitié, sur notre amour.
Oh.
Et parlant d'amour et d'amitié.
Oh!
Je sais pas si tu t'en vas avec ça, mais.
Hey, ça, c'est la transition la meilleure de la Terre, man.
Donc, Pascal Plante, tu as vu également le nouveau film de Whit Stillman, Love and Friendship.
Ouais! Amour et amitié.
Quelle transition!
Oui! J'ai vu.
Attends. Juste dire, s'il y a un fan qui nous écoute, qui est vraiment genre un fan fou là, de point de vue, là, j'aimerais ça qu'il fasse comme un montage de toutes les meilleures transitions de Paul à travers tous les épisodes. Tu sais, genre de medley, là. Un genre d'une demi-heure de transition habile de Paul.
Tu viens de lancer
Pascal, ça a été dit.
Tu viens de lancer l'Internet.
Internet, do your magic.
Minutes, là. Ça serait pas pire, un petit 2 minutes de ça.
Hey, mais Love and Friendship, c'est, donc tu l'as dit, un long métrage de Whit Stillman basé sur un petit roman, un roman épistolaire, si je ne m'abuse, de Jane Austen, intitulé Lady Susan, qu'elle avait écrit à la fin du 18e siècle, en 1794. Hey, mon Dieu, j'ai pas de notes, là.
j'avais pas lu à la sortie, non.
Non, c'est ça. Mais... J'ai juste un petit mot sur Jane Austen, pas que je connaisse là, de fond en comble, mais tu sais, je connais beaucoup. En fait, mon mea culpa, c'est que je l'ai jamais lu, mais je connais évidemment, il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques. Puis je regardais ça, puis j'en ai vu une pléiade, donc...
On pense à, tu sais, Pride and Prejudice.
Exactement, c'est ça. Ouais, and Zombies. Non, c'est ça, ben, tu sais, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility. Qui, tu sais, juste pour mettre en contexte, la seule affaire un peu à savoir, plein d'affaires à savoir sur Jane Austen, c'est sûr et certain, là, mais je vais m'arrêter sur ce que je sais, c'est que finalement, elle parle beaucoup d'aristocratie, début 19e siècle, fin 18e, mais en fait, c'était tous des écrits qui étaient contemporaines à son temps. T'sais. C'est juste important de se le rappeler, parce que on dit film d'époque, on dit scénario d'époque, mais... Oui, mais en même temps, c'est comme le matériel était quand même contemporain, il y a une saveur intéressante. Puis des fois c'est juste bien de faire aussi cette réflexion là, tu sais, le matériel source, d'où est-ce qu'il provient? Est-ce qu'il a déjà le regard de l'histoire ou est-ce que on est en train de commenter sur la société qu'on voit, qu'on vit, qu'on connaît? Ben, Jane Austen, c'est plutôt le cas numéro 2. Donc elle parle de la haute société, mais tu sais, avec un regard là de son temps. Ça, c'est juste une petite mise en contexte. Où est-ce que Whit Stillman se positionne par rapport à ça? Ben, Whit Stillman, d'un, c'est un réalisateur anglais
Moi, j'ai vu un seul de ses films. J'ai vu Barcelona, c'est son deuxième long-métrage en 92. Mais son premier, ou 93 peut-être, en tout cas, son premier film en 90, c'est Metropolitan, qui avait quand même fait un gros... disons, c'est un petit peu le penchant british de tout le ce qui se passait un peu aux États. T'sais, on en parle souvent, mais je sais pas, un genre de slacker de Richard Linklater, un genre de Rodriguez qui fait des films avec des peanuts un peu. Il y a toute cette vague-là aux États, mais... Elle est un peu mondiale, finalement, cette vague-là, parce que il y a une démocratisation du matériel pour tourner, donc ça se répercute partout. Ben, Whit Stillman, il s'inscrit un peu dans ça, tu sais, c'est du low budget, très beaucoup de dialogue. Il n'a pas peur de parler de personnages qui sont fortunés aussi. Tu sais, c'est très first world problem, tu sais, c'est des problèmes de relations, mais tu sais, par des gens un peu... des érudits, là, philosophes un peu, tout ça. Bon, bref. Évidemment, quand je compte ça, les grandes lignes, on pense tout de suite un petit peu à Woody Allen. Ça n'a pas les mêmes réflexes qu'un film de Woody Allen. Je pense que c'est quand même très distinct. Là, encore là, je m'appuie seulement sur les deux que j'ai vus, donc Barcelona et Love and Friendship. Puis encore là, Love and Friendship n'a pas vraiment rapport parce que c'est un film d'époque, comme je disais, fin 18e siècle. Bon, ça, c'est un petit peu pour la mise en contexte. Dernière mise en contexte que j'ai à faire sur Whit Stillman, son film le plus connu que je n'ai pas vu, mais c'est quand même important pour le mettre en parallèle, c'était Last Days of Disco, qui est fait en 98, si je ne m'abuse, mais qui mettait en scène, en fait, Kate Beckinsale et Chloé Sevigny. Je le dis parce que Love and Friendship met en scène Kate Beckinsale et Chloé Sevigny. Puis les gars, nommez-moi donc un ou deux bons films avec Kate Beckinsale.
J'ai vraiment la difficulté à savoir c'est qui. C'est la fille de Underworld ou...
Ben... Ah oui, c'est elle. Moi, j'avais juste la misère à imiter un son de criquet, en fait.
C'est ça le problème. Donc,
voilà. C'est vrai, c'est la fille d'Underworld. Bon. Genre, le nom me sonnait une cloche, mais juste pour ça, en fait.
Écoute, regarde. J'ai pas vu la Days of Disco, donc je peux pas commenter sur celui-ci, visiblement vous non plus, mais disons que c'est pas une actrice, c'est un peu, je sais pas, peut-être comme un Matthew McConaughey, mais avant qu'il devienne un acteur legit, je sais pas comment le dire, mais tu sais, mais j'ai l'impression que ce que Matthew McConaughey a réussi à faire un peu comme tournant, ben peut-être qu'il y a un genre de parallèle qui est pas con à faire un peu avec Kate Beckinsale, parce que je trouve qu'elle elle brille beaucoup, mais elle brille d'une façon étrange dans Love and Friendship. Je pense qu'elle se met en bouche des dialogues qui sont difficiles à dire. C'est un film, donc, comme je disais, beaucoup de dialogues. Le film, qu'est-ce que c'est? Ça tient sur ses épaules. Elle joue une anti-héroïne détestable. Elle est vraiment fessée dedans. C'est une femme de la bourgeoisie qui vient de perdre son époux. Et déjà, elle doit rebondir là-dessus et trouver un nouveau mari. Et aussi, par le fait même, parce que sa fille, qui est rendue en âge, je pense qu'elle a 15 ans, si je ne m'abuse, elle aussi, bref, elle doit avoir un mari, mais tu sais, c'est plutôt comme en mode sensu, là, pour pouvoir graviter vers la haute société, vers des richesses. Et donc, on suit cette espèce de personnage perfide, mais fascinant, parce qu'elle est justement très intelligente dans ses manipulations. Et le film tourne beaucoup sur un moment précis là, de ses tribulations pour trouver le jackpot de son de mari richissime amoureux naïf. Elle s'en va en retraite en fait chez des cousins et puis là elle amadoue un jeune cousin justement quand même beaucoup plus jeune qu'elle. Donc au début, tu sais, ses histoires la précèdent, c'est une femme détestée, puis elle réussit un petit peu là, tu sais, avec sa langue de vipère à se refaufiler là dans les bonnes grâces là, d'une famille nantie. Disons que ça, c'est le setup. Je ne dirai pas vraiment plus sur le synopsis, sur le film, l'histoire. Disons juste qu'elle impressionne. Tu sais, c'est peut-être un biais personnel. J'aime les films de personnages où d'une scène à une autre, on est en conflit avec le personnage principal. Une scène, tu la trouves exécrable. L'autre scène, tu te dis « Ah, elle n'est pas si pire que ça. » Une scène, elle est très intelligente. Elle est tout à fait en contrôle. Une autre scène, elle perd les pédales. Tu sais, c'est vraiment une montagne russe, puis c'est tout à l'honneur de Kate Beckinsale au final, parce que bref, le film tient sur ses épaules. Il y a un cast, la plus belle chose que Whit Stillman a faite, c'est de réussir à trouver le registre juste de langage et de jeu. Il y a personne qui détonne dans le film. Puis je réinsiste, là, c'est un film de dialogue, fait que c'est dur, tu sais, c'est pas un film de mise en scène tape à l'œil, c'est pas comme quand Scorsese va faire un film d'époque ou je sais pas, c'est il fallait en fait que ce soit le moindre accro d'un acteur de soutien effrite le château de cartes, tu sais, fait tomber le château de cartes. Puis là-dessus, c'est vraiment très bien. Mais disons, les gars, que le plus bel argument de vente, parce que j'ai bien aimé au final, là, je pense que vous le comprenez un peu dans avec mon enthousiasme, j'ai bien aimé. On parle d'un film qui a des super bonnes reviews, là, je pense qu'il est comme à 87 sur Metacritic, puis tout ça, tu sais, c'est vraiment un... mais c'est un film qui n'a aucune prétention. On pense film d'époque, mais tu sais, tout de suite, il y a un genre de décorum qui vient en tête, un genre de panache. Le film n'en a finalement pas tant que ça, et le film est très drôle. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est une comédie pure et dure, assumée. Whit Stillman, d'ailleurs, le disait en entrevue, il disait « Je comprends pas pourquoi que le monde se plante avec Jane Austen. Elle est tellement facile à adapter, puis le monde, il comprenne pas. » En fait, c'est que lui, il a dit « Ben, le monde, je pense qu'il catche pas l'humour. Il catche pas un peu la satire. Il y a un côté de dérision. Même dans les personnages tragiques, tu sais. » Puis lui, il a été comme 100%, juste pour vous dire, un élément stylistique par contre qui est quand même tape à l'œil dans le film, c'est que les personnages sont introduits avec une genre de title card. Là, il y a comme tout le temps un genre de plan très posé où ils vont regarder la caméra, puis là, mettons, le conte tel personnage, puis là, il y a une petite description en dessous qui dit, un homme riche mais idiot, ou t'sais, juste des petites blagues un peu sur genre, t'sais, comme en une ligne, c'est qui ce personnage-là, t'sais, tout un peu pour... Je sais pas, il y a un élément de satire que probablement Jane Austen voulait définitivement inclure dans son film, qu'il a un petit peu ramené, c'est frais, c'est le fun. Disons, pour moi, ça gagne la palme du film d'époque le plus agréable, le plus plaisant que j'ai vu depuis un Chris Booth, là, tu sais. Ouais, une belle surprise pour le Love and Friendship. Avez-vous des questions? J'ai l'impression que je passe sur mon espèce de tirade infinie. Mais...
En fait, là, moi, c'est quelque chose qui est... C'est un hard sell, là. Ouais, c'est ça. En fait, back-à-back, un film de boxe puis un film d'époque, là. C'est des trucs, là, des hard sell pour moi, mais t'es fait bien passer, là. Ça me donne le goût de les voir, là.
Ouais. Ben, en plus, c'est drôle parce que, ben... Ali, j'avais plus mes bémols, puis je pense que je les ai plus dit. Là. Mais Love and Friendship, c'est que je pense que pourquoi c'est un film qui a autant d'engouement critique, c'est je pense pas que c'est nécessairement un film qui va faire beaucoup de top 10 de fin d'année, nécessairement. Mais c'est un film qui est difficile à ne pas aimer. Tu sais, on passe vraiment un bon temps, puis malgré qu'il y a un souffle... il y a quand même beaucoup de péripéties, puis ça se passe quand même sur une certaine période de temps et tout ça, mais le film est très, très compact, là, c'est une heure et demie, on va pas vraiment plus loin que ça. Il y a quelque chose de rafraîchissant en fait dans la légèreté d'approche d'un film d'époque, tu sais. Puis beaucoup d'autres metteurs en scène, scénaristes et tout le Bataclan devraient prendre note. Je trouve que c'est un très bon film. Point.
Ouais, puis je check ça, là. Je check la filmographie de Whit Stillman, puis il y a comme 5 films en 26 ans. Là.
Ouais, c'est ça.
Il y a 2 épisodes de série, puis 5 longs-métrages en 26 ans, là.
Ouais.
Genre, il est pas pressé du tout, là. C'est comme.
Non!
Ben, il y a comme. En fait, il y a une période, il y a un 13 ans où il a pas fait de film, puis rien du tout, là. Entre The Last Day of Disco, puis Damsel in Distress.
À cette époque-là, il était vraiment très still, même.
Oh!
Je fais de l'humour british léger. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais non, mais tu dis ça, puis c'est vrai que des fois, tu sais, parce que on aura beau, tu sais, comme essayer de pas faire de préjugés, tout ça. Il y a quand même quelque chose dans l'humour britannique qui est unique, puis qui, tu sais, il y a une identité forte un peu dans les espèces de petites comédies de langage, puis les petites comédies un peu ridicules. Tu sais, tu me décrivais ça, je me rappelais un peu Monsieur Turner, tu sais, qui est un biopic relativement drabe, mais qui a quand même des points d'humour ici et là qui font tellement du bien,
ouais.
qui permettent de rendre des films, tu sais, assez légers, puis assez divertissants. Donc, c'est ça, ouais. Il y a toute une école, en fait, de l'humour britannique qui est le fun, tu sais,
ouais.
sans nécessairement aller dans les extrêmes, tu sais, absurdes à la Monty Python, mais... globalement, ils ont toujours un peu ce sens du... Ben justement, en anglais, on dit le wit, tu sais, puis c'est ça serait pas pareil, mais c'est ça, c'est l'espèce de la petite touche un peu où comme pouvait écrire, tu sais, c'est ça, Jane Austen ou tu sais,
ouais.
un, Oscar Wilde.
Ouais, une certaine classe, mais c'est une question de ton, tu sais. C'est une question, il y a une belle rythmique dans la langue, il y a quelque chose de très tac au tac. C'est ça, c'est une question de ton. C'est pas... Il y a un seul personnage qui détonne un petit peu plus, mais je dis ça d'une façon aucunement négative dans Love and Friendship. C'est le personnage incarné par Tom Bennett. Il joue Third James, je pense. C'est vraiment... D'ailleurs, il est introduit avec son petit title card comme genre, tu sais, a bit of a nitwit, je pense qu'ils disent. C'est un peu un imbécile, mais il est riche. Donc, c'est ça, la Kate Beckinsale essaie de le matcher avec sa fille, mais sa fille est comme... Il est crétin, là, voir que je vais me marier avec lui. Mais bref, Tom Bennett, son personnage, il est vraiment drôle. Tu sais, un peu, il est over the top, mais ça passe. Parce qu'il est comme charmant, puis finalement, il a comme d'autres qualités, puis ça devient pas juste une grosse caricature, même si c'en est quand même une. Je sais pas comment le dire, il y a juste comme une genre de touche, tu sais, une genre de classe quand même, que même un personnage crétin, qui est là comme comic relief, carrément. Il y a juste assez de doigté pour que ça soit... Il s'infiltre un petit peu dans, dans le récit avec une certaine grâce, même, je dirais même jusqu'à dire. Puis, tu sais, pour le comparer, c'est quasiment drôle dans le sens... tu sais, dans... Voyons, le dernier Frank Cohen, j'ai le tir blanc. C'est quoi, donc, le dernier Frank Cohen?
Hail Caesar.
Bon, Hail Caesar. Tu sais, dans Hail Caesar, là... j'ai les pires blancs. L'acteur, là, tu sais.
Alden Ehrenreich.
Exactement. Ben, comment lui s'imbrique dans un genre de film comme Hail Caesar? Ben, dites-vous qu'il y a un genre d'équivalent dans Love and Friendship, tu sais. Puis sa scène d'introduction, elle est jouissive, là, tu sais, puis... Il n'y a comme pas de timing, puis il n'y a pas d'aptitude sociale. Fait que la scène, elle est longue et awkward, mais longtemps, là. Tu sais, elle devient plus drôle, puis elle redevient drôle. Mais il y a un timing d'acteur, il y a un doigté, il y a une touche, pour que finalement, ça soit juste... Oui, c'est une caricature, mais c'est fait avec bon goût et bon cœur. Fait que, ouais, c'est le petit mot de la fin, là, pour le Love and Friendship. À super. Voir. Ça ne faut pas nécessairement mon top 10 d'année, mais un beau film de 2016 à se mettre sous la dent en salle ces temps-ci.
Super, merci. Et en guise donc d'apéritif, mais pas d'apéritif, mais de digestif, laissez-moi vous faire la critique rapide du documentaire fascinant qui s'appelle Tickle, qui prend l'affiche le 24 juin.
Moi, je pensais que ça sonnait comme un documentaire Netflix que j'écoute en trois fois, là.
Ben, écoute, je te dirais possiblement, parce que, bon, est-ce que, il y a quand même très peu de... Ben, j'ai un peu un préjugé envers le documentaire en salle, dans un sens, je devrais vraiment pas dire ça, mais tu sais, en tant que forme d'art, je peux pas dire que, mettons, Tickle, ce soit le film le plus beau et qui change la forme, tu sais, qui un peu confronte la forme du documentaire.
Ouais.
Mais c'est un travail de journalisme et d'investigation incroyable. C'est un peu comme le Jinx ou le Citizen Four de cette année.
Shit.
Puis là, la barre est haute, là, déjà. Ça rejoint peut-être pas de tel sommet parce que, bon, le sujet est beaucoup moins, entre guillemets, important. Mais pourtant, c'est un film qui a des conséquences grandes et on espère qu'il continuera à avoir des grandes conséquences. Et surtout, ça permet vraiment des très grandes réflexions à l'ère d'Internet et de l'anonymat et tout ça. Mais là, qu'est-ce que c'est, finalement, Tickle, là, maintenant que je vous ai assez chatouillé avec ma prémisse? C'est en fait, c'est donc un documentaire. C'est, c'est une personnalité, en fait, néo-zélandaise qui s'appelle David Farrier, qui est une forte personnalité là-bas, qui est assez connue, supposément. Bon, moi, ça me dit rien. Et qui fait un peu sa carrière en faisant des enquêtes, en fait, sur des trucs absurdes, des histoires un peu louches. Pas paranormal, mais tu sais, des trucs un peu absurdes puis ridicules.
Le genre de Denis Lévesque, là.
mais plus... Peut-être,
tu peux changer
plus...
de sujet, pas ça, t'arrange
pas. Avec peut-être plus de distance, je dirais, de son sujet. Donc, à un moment donné, dans son bureau, avec son collègue, qui sera aussi le co-réalisateur du documentaire, Dallin Reeve, il tombe sur une page Facebook qui fait la promotion, donc, d'une ligue professionnelle de chatouillage. C'est en anglais, là, et qui est géré par la compagnie Jane O'Brien. Donc là, il tombe là-dessus, puis il y a des vidéos, là, c'est des hommes, tu sais, mettons, qui se font attacher sur un lit, tu sais, habillés en jersey, là, en sportif. Puis là, t'as comme une équipe autour de 3-4 personnes qui se mettent à le chatouiller, soit avec les mains ou avec des accessoires. Et c'est de l'endurancé. Lui, il doit pas rire, il doit rester comme stoïque, tout ça. Donc, il tombe là-dessus, puis il dit... Puis là, tu sais, c'est une page legit, là, qui a comme 30 000 fans, puis il est comme, OK, il y a plein de vidéos, tu sais, puis c'est régulier. Puis il se dit, ouais, c'est un bon sujet, ça, je pense, pour un article, donc je vais essayer de contacter l'administrateur de la page Facebook, tu sais, pour avoir une entrevue. Et là, lui, bon, c'est un journaliste qui est ouvertement gay, et il se fait traiter de tous les noms, il se fait traiter de, tu sais, des mots là, qu'on n'aime pas répéter, là, de fagotte, puis des trucs comme ça. Puis là, il trouve ça quand même assez drôle. Bon, lui, ça le touche pas nécessairement, mais il trouve ça bizarre de se faire répondre comme ça, de manière vraiment pas professionnelle, par une page qui est aussi grosse. Surtout que pour lui, il trouve que le sous-texte homoérotique est clairement là. Donc, il se met à faire sa petite enquête, puis à essayer de contacter les gens, hein, puis à essayer de voir les participants, s'ils peuvent lui donner une entrevue, tout ça. Puis rapidement, il se fait mettre en demeure, il se fait menacer, il se fait envoyer plein de lettres de poursuite. Et c'est un peu la panique, parce que c'est un journaliste pour un petit média qui n'a pas nécessairement les fonds pour comme répondre à des poursuites comme ça. Surtout que un peu les États-Unis, c'est un peu le pays des poursuites puis des procédures judiciaires. Fait que lui, comme le petit journaliste néo-zélandais, il trouve ça un peu dommage. Donc là, il essaie de comme recontacter, puis il essaie de s'expliquer tout ça. Et finalement, la compagnie Jill O'Brien envoie rapidement 3 personnes pour aller discuter. Il envoie ça en Nouvelle-Zélande, première classe, pour présenter un peu leur sport, etc. Fait que là, il dit OK, on a affaire à une compagnie qui a vraiment beaucoup de sous, vraiment beaucoup de moyens. Fait qu'ils accueillent avec la caméra parce qu'ils essaient de comme faire un reportage, puis de comprendre c'est qui. Et rapidement, les personnes qui arrivent en Nouvelle-Zélande sont agressives, ils se protègent, ils veulent pas vraiment dévoiler qu'est-ce qu'ils font, ils veulent pas trop en parler, puis ils veulent pas être filmés. Donc là, eux autres, tu sais, sont... Bon, ensuite, eux, ils repartent, ils ont pas vraiment eu beaucoup d'informations. Fait qu'eux, ils se disent, OK, là, ça a pas de bon sens, il y a de quoi de gros qui se passe, puis on peut pas juste, tu sais, se faire mettre en demeure sans essayer de creuser le sujet. Donc, ils se rendent à Los Angeles, puis ils se rendent aux États-Unis, pour faire une enquête, et c'est là que ça dégénère. Puis là, ça, c'est vraiment comme, tu sais, la prémisse, puis les premières 20 minutes, mais je pourrais pas vraiment trop vous en dévoiler
sans vous gâcher le plaisir de la découverte. Je suis hook, ouais. Là, je vais checker ça, ouais. C'est sûr. Man.
Mais ça tombe dans une espèce d'enquête internationale avec, tu sais, les participants, tu sais, ils contactent les centaines de participants des vidéos, il y a personne qui veut lui répondre. Il y a une seule personne, à un moment donné, qui réussit à avoir une entrevue. Puis cette personne-là a dit qu'elle a reçu des menaces de mort parce qu'elle parlait aux journalistes néo-zélandais. Et c'est une grosse enquête. Puis finalement, il tombe sur comme des ramifications beaucoup plus grosses que ce qu'il pensait.
Arrête ça, là.
Donc, c'est le tease que je vous fais.
Calme-toi.
Mais c'est vraiment fascinant. Puis ce qui commence, tu as l'impression que tu vas écouter un petit documentaire léger, tu sais, sur un sujet un peu... hétéroclite, une espèce de sous-culture là, bizarre que tu connaissais pas trop. Et ça vire en espèce de complot international. C'est assez hallucinant. Puis c'est que le film aussi... Bon, c'est un peu le défaut du film, peut-être, je dirais, c'est que ça va peut-être pas... C'est peut-être un film qui aurait mérité de comme encore être poursuivi une année ou deux. T'sais. Bon, évidemment, je comprends que des fois, on n'a pas tous les moyens de faire des documentaires sur plusieurs années. Mais c'est que, sans vouloir trop en dévoiler, c'est que l'histoire est comme... encore en cours, et j'aurais préféré peut-être un documentaire plus long, qui dure plus longtemps, mais ça en vaut la peine, l'histoire est assez fascinante, et puis c'est ça, c'est sans vouloir en dire trop, c'est que c'est une espèce de... Tu sais, maintenant, avec l'Internet puis la technologie, il y a tellement de pouvoir entre les mains de peu de personnes, ce que déjà on comprenait avec Citizen 4, puis qu'on comprend avec d'autres films. Mais là, c'est ça, c'est sous le thème d'un concours de chatouillage professionnel, une ligue en fait, pardon, une ligue professionnelle de chatouillage d'endurance. Donc, je vous recommande le film.
C'est bien intéressant, bon, ça!
C'est vraiment intéressant. Et ça a aussi l'avantage d'être accessible à un très grand nombre. Tu sais, c'est, bon, c'est un complot, mais tu sais, il n'y a rien de vraiment tu sais, trash ou de gore. Ou, tu sais, vous pouvez y aller avec des... Tu sais, des sans, avec votre famille ou peu importe, là, ça sera pas un film que vous allez avoir peur ou peu importe. Donc, c'est le documentaire Tickle de Dallin Reeve et David Farrier. Par contre, c'est un peu bizarre de sortir comme ça en plein mois de juin, là, parce que là, c'est comme... J'ai peur qu'il va être un peu étouffé par toutes les grosses sorties de films de super-héros puis d'Independence Day, mais en même temps, ça peut peut-être être l'alternative pour ceux qui ont choisi ce genre de cinéma-là. Donc, si vous avez le goût plutôt d'un documentaire fascinant, je vous le recommande. Donc, ça fait le tour de notre point de vue cette semaine.
Oh yeah!
On se quitte sur la bande-annonce du film Tickle. Ça va vous laisser une petite mise en bouche pour finir. Parfait. Mon nom est Paul Landriot, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal. Plante.
Oh. Moi, j'ai un montage de 2 minutes de toutes les Pascal Plantes de fin d'épisode.
I've made a career out of looking at the weird and bizarre side of life.
It's quite a kick.
So when I discovered a strange video online, I knew I'd found my next story.
CET, Competitive Endurance Tickling Group we got here.
Competitive Endurance Tickling. It was one of the strangest sports I'd seen. So I told Jane O'Brien Media I'd like to do an interview. Instead of getting a yes or no, I got this.
Association with a homosexual journalist is not something we will embrace.
Shame on you. Little gay Kiwis. Regards, Jane O'Brien Media.
It was hard to take the insult seriously, considering the sport did seem slightly gay. This tickling wormhole was getting deeper.
I mean, obviously it's just for fun.
Is it just for fun? It's tickling.
You know, I was young at the time, didn't think nothing of it. And I was like, $2,000, that's gonna be cool.
I mean, imagine being a teenage boy. She would just keep sending them whatever they wanted.
She offered my one buddy a Chevy Cruze and $30,000. The money's endless.
This tickling empire is way bigger than we ever imagined.
They have tickle cells all over the US. They're everywhere.
And at some point, these boys say, I'm done. The thing that she hates the most was no. It was like a bomb went off.
Your phone number and your personal information are entirely known and subject to publication on the internet.
All hell broke loose.
All of a sudden, these videos are on YouTube, Vimeo, and every other site you could imagine.
Sending emails to the high school that I coach at.
What do you think your mother's gonna think about this?
We're shooting a documentary.
I understand it's, what you think you're doing.
If you want to stick your head in the glass first, do it.
Jane O'Brien's a ghost.
Okay, let's go.
I'm breathing heavily.
Yes, Sam.
We could hear laughter coming out of the vents.
We've been spotted.
Oh my God. Oh my God.